Albert Sim, les débuts de Brigodin. Depuis 10 mois qu'il avait abandonné son emploi de garçon de magasin dans la maison de laine et tissu de Pelvier-Royon, une des meilleures de la place de Reims, Isidore Brigodin ne s'était recasé nulle part. Non pas qu'il lui fût échu quelques bons goûts ou même un petit bon petit héritage, et qu'il jugeait plus simple et plus agréable de manger ses rentes que de besogner à trimer. Brigodin ne roulait pas sur l'or, et l'argent, hélas, non, tant s'en faut. Mais il ne se sentait plus le goût du travail. Il était devenu paresseux, musard et flemmard au possible. Et puis surtout, il avait une diabolique habitude qui s'aggravait et empirait de jour en jour, sans qu'il fût rien pour l'entraver et s'en délivrer, au contraire. Il buvait comme une éponge. C'était même à cause de ce terrible défaut qu'il était sorti, qu'il avait été congédié, pour mieux dire, de la maison Pelvier-Royon. Comment avait-il vécu durant ces derniers mois? Quelques pièces de 20 sous gagnées à portée de la gare à domicile, ou réciproquement des colis de voyageurs, de chétives aumônes soutirées de droite et de gauche, à des étrangers principalement, sur le parvis de la cathédrale ou sous les loges. Tel avait été le plus clair de ses revenus. Un soir, lassé de coucher à la belle étoile, n'ayant rien mangé ni rien bu, misère, depuis la veille au matin, il s'était avisé de lancer une grêle de cailloux dans un réverbère voisin d'un poste de police. Et grâce à ce bel exploit, avait réussi à se faire allouer sur le champ un gîte au sus d'hyposte, puis un demi-pain de marmiton et une cruche d'eau. Bah ! Un autre soir, ayant encore le ventre déplorablement creux, il était entré dans une auberge du faubourg de Laon, s'était fait servir un copieux festin qu'il avait arrosé de 3 bouteilles de vin du pays, et le quart d'heure de Rabelais venu, avait effrontément déclaré au patron qu'il ne possédait plus un centime. « Pas un bougiard, mon bel ami, pas un radis, je vous le jure. Vous pouvez me fouiller, si vous ne me croyez pas. Et vous fouillez surtout. Je n'avais qu'à envoyer chercher les agents. Ils me fourront au bloc. » Oui, Brigodin espérait obtenir encore le gîte après le souper. Mais son attente fut déçue. L'aubergiste, homme prudent et d'expérience, savait qu'il, s'il appelait la police à son aide, il lui faudrait aller le lendemain faire sa déposition dans le bureau du commissaire et perdre ainsi une matinée presque entière, qui serait obligé d'aller ensuite renouveler cette déposition devant le tribunal, ce qui ferait encore une manière ténète perdue, et qu'il était bien plus économique de passer les frais de ses repas au compte de profit et perte. Il administra en conséquence un vigoureux coup de pied dans le fond de culotte de Maître Brigodin, et invita ce sacré filou à aller se faire pendre ailleurs. Restaient donc les becs de gaz à démolir et les réverbères à fracasser. Et c'était en effet l'expédient auquel Brigodin avait le plus ordinairement recours pour mériter d'être logé à l'œil et hébergé gratis. Il avait ainsi récolté, durant ces 10 mois, et par période toujours croissante, un total de 6 mois de prison. Le vol n'avait eu néanmoins aucune part dans ses multiples condamnations. Il n'était question que de vagabondage, ivresse, tapage nocturne, dégradation d'objets destinés à l'utilité publique, enfin des pécadilles. Mais notre triste cerf était en trop bon chemin pour s'arrêter là et ne pas ajouter bientôt à son casier judiciaire cette indispensable mention. La première tentative entreprise dans cette voie par Isidore Brigodin ne fut cependant pas des plus heureuses, comme vous allez en juger, et aurait bien dû lui servir de leçon de providentiel avertissement. C'était durant le rigoureux hiver de 1879-1880. Le nombre des mendiants et malandrins avait plus que doublé dans la ville, et le faubourg est, justement, le malchanceux Isidore venait de quitter ce qu'il nommait sa maison de campagne, et d'être rendu à la liberté, c'est-à-dire au froid et à la faim, à la fainéantise, à l'ivrognerie, et à tous les tourments et à toutes les hontes de la misère. Après avoir dépensé, bu en moins de 48 heures, et histoire de rattraper le temps perdu, l'humble pécule qu'il avait gagné en tressant de grossières corbeilles d'osier, les 7 francs qui lui avaient été remis à sa sortie de prison, il se trouvait dans le plus complet dénuement et était venu s'affaler tout grelottant sur un banc des promenades. Que faire? La faim, l'horrible conseillère, le tenaillait. Oh, si je pouvais chaparder quelque chose, mais où? Quoi? Et bientôt, il se rappela certaines chambres mansardées, situées en face de celles qu'il occupait l'an dernier, lorsqu'il travaillait chez Pelletier-Royon. Une simple mais proprette petite chambre louée à un jeune homme, un employé de commerce, qui partait le matin et ne rentrait qu'à la nuit, et avait coutume toujours de laisser sa fenêtre ouverte, afin sans doute que l'odeur du tabac, c'était un fumeur enragé, ce jeune homme, se dissipât plus aisément et que l'air s'épurât le plus possible pendant son absence. Ben, si j'y allais, il doit avoir de l'argent, ce garçon-là. Des économies cachées dans ses tiroirs. Un petit Saint-Frusquin. Et voilà Brigodin s'acheminant vers la rue de Mars, où il avait demeuré naguère et où habitait très probablement encore cet employé. Il se faufila dans le corridor de son ancienne maison et grimpa jusqu'au sommet de l'escalier, sans attirer l'attention, sans rencontrer personne. Ce dernier palier était éclairé par une large lucarne donnant sur une terrasse contiguë à une cour intérieure, la même cour où la chambre de l'employé prenait jour. La fenêtre de cette chambre était grande ouverte, ainsi que Brigottin l'avait conjecturé. Selon toute apparence, ce locataire était donc toujours ce même jeune homme, émérite culotteur de pipe, qu'il avait entrevu plus d'une fois jadis. Le difficile était de se rendre du palier à ladite chambre. Il fallait d'abord franchir la lucarne, puis descendre sur la terrasse, ce qui exigeait un saut de 2 mètres, et de la terrasse se laisser ensuite glisser à 3 mètres plus bas sur un petit toit qui se trouvait presque de plein pied avec la mansarde en question. Brigodin effectua sans encombre ce périlleux trajet. Aussitôt entré dans la place, il s'empressa d'ouvrir les tiroirs de la commode. La clé était sur la serrure de l'un d'eux et fouilla partout, rapidement, fiévreusement, pour découvrir réserve les économies du locataire. Rien dans la commode. Dans l'armoire à glace, rien non plus, sauf une demi-douzaine de chemises, une boîte de faux cols, des chaussettes et une ou deux piles de mouchoirs rangées sur les rayons. Dans les 2 étroits placards dissimulés de chaque côté de la cheminée, rien encore. Dans le cabinet de toilette où quelques vêtements étaient appendus, rien, toujours pas de magot, pas de Saint-Frusquin. Bon, je me doutais guère qu'il était si pané que ça, maugréa mentalement Brigodin. Ouais, si j'avais su, moi qui me suis donné tant de peine. Au moins fallait-il que cette peine ne fût pas totalement perdue. Et à défaut d'argent, il songea à se rabattre sur le linge et les vêtements, à se faire un bon paquet qu'il emporterait. Oui, mais comment l'emporter? Comment remonter du toit sur la terrasse, puis de la terrasse jusqu'à la lucarne du palier, avec un tel fardeau? Pas moyen, oh, faut y renoncer. À moins que j'adosse cette défroque. C'est ça, et je lui laisserai la mienne en échange. Une bonne farce. Il en fera une tête quand il trouvera mes guenilles à la place de ses meilleurs effets. Je voudrais le voir. Et vite, vite, de se déshabiller, tout en ratiocinant de la sorte, de décrocher gilet, paletot, pantalon par-dessus, vite, vite, d'avant-en chemise et chaussures. Mais justement au moment où Isidore Brigodin était quasiment nu, et se disposait à enfiler un pantalon de drap noir tout battant neuf, un pas se fit entendre de l'autre côté de la cloison, dans un corridor sans doute. Une clé grinça dans la serrure. Brigodin de se baisser aussitôt et se couler sous le lit. Et maintenant ne bougeons plus. La porte était ouverte, puis refermée, et l'on allait et venait dans la pièce. « Bon, s'il faut passer la nuit là, me voilà propre !» se dit Brigodin, qui sentait déjà le froid le pénétrer et lui ankyloser les membres. On continuait à marcher, tout contre lui. Il entendait manœuvrer les tiroirs de la commode, grincer la porte de l'armoire et celle du cabinet. Oh, le froid le gagnait de plus en plus. Mon Dieu, pourvu que j'aille pour éternuer. Et s'il aperçoit mes nippes sur son lit, s'il voit qu'on a dérangé, oh, ben non, mais est-ce qu'il va demeurer là? Est-ce qu'il va pas ressortir? Si, il lui semble qu'on se rapproche de la porte. Oui, on l'ouvre. On s'en va. Oh, enfin, quelle chance! Maintenant, plus de temps à perdre. Il s'agit de se rhabiller presto et de filer grand air. Mais où donc sont les vêtements? Le pantalon, la chemise, les bottines, le paletot que j'avais préparé. Disparu? Et mes loques que j'avais laissées là sur le lit? Mais où les a-t-il fourrés? Desrochers, Brigodin explora l'armoire, la commode, le cabinet de toilette. Toute la garde-robe avait été emportée, tout le linge enlevé. Et ces pauvres frusques avaient été, elles aussi, comprises dans la rafle. Oh, mais c'est donc pas le locataire, l'employé de commerce, qui vient de venir. C'est un voleur, un confrère. Eh ben merci. En plein, oh, je le retiens. Cet animal-là, si je le connaissais. Oui, c'était un deuxième larron, il y avait tant de misérables à Reims cet hiver-là, qui n'ayant pas, comme Brigodin, la ressource de s'introduire dans cette chambre par la fenêtre, y avait pénétré par la porte à l'aide d'un rossignol. Et pendant que son confrère se morfondait sous le lit, il avait fait main basse sur le tout, sur tout ce qu'il avait trouvé, et mis toute la pièce au pillage. Et que devenir? Comment me carapater de là? Ruminait Brigodin. Transi et glacé de la tête aux pieds, ne peut pourtant pas me sauver tout nu, courir sur les toits comme un singe. Oh, miséricorde, en voilà une des veines, oh! Se sauver tel quel, il n'était pas même plus que temps. Un bruit de pas retentissait, s'approchait. Une voix jeune, pleine et tapageuse, lançait ses éclats à tous les échos et claironnait des fragments d'une romance alors en vogue. Non, tu n'es plus ma paquerette, t'as l'œil si doux. C'était le jeune homme, le vrai locataire cette fois, qui laissait les joyeux grimper son escalier et réintégrer le logis. Il cessa net sa chanson, comme bien l'on pense, et poussa un cri de stupeur et d'effarement à l'aspect de cet individu planté au milieu de sa chambre et dépouillé de tout voile. Hé, monsieur Barbier, appela-t-il à tue-tête. Isidore Frigodin le connaissait, ce monsieur Barbier. C'était le principal locataire de la maison, un peintre en bâtiment qui soulouait à des jeunes gens les mansardes du dernier étage. Monsieur Barbier accourut. Et ce fut lui, lorsque l'infortuné Brigodin eut piteusement, tout tremblant de froid et claquant des dents, confessé sa mésaventure, qui alla chercher dans sa défroque et parmi ses mises bas de quoi d'ouvrir la nudité de notre apprenti cambrioleur et permettre de le conduire au poste. Oh, voilà d'une roide tout de même, clamait Isidore Brigodin, chemin faisant. C'est moi qu'elle volait. « Oui, monsieur, tout aussi bien que vous, et c'est moi qu'on pige, enfin. Je serai là, moi logé et nourri pour rien, tout mon hiver. C'est toujours ça de gagner, n'est-ce pas, père Barbier ?»